Good. Donc, on s'en va dans Matthieu 23. Et nous avions laissé la semaine dernière, vous savez, il y avait trop de matériel pour le couvrir en une fois. Donc, c'est comme c'est un seul et même message en deux parties. Donc, je ne vais pas partir exactement de la virgule où j'étais rendu. Je vais faire un petit peu de rétrospective. Mais on est toujours dans ce passage où est-ce que Jésus dénonce avec autorité. Et je vais juste lire le premier malheur, là, parce que on a déjà lu le chapitre au complet, tout ça, mais je vais juste lire ça en premier, parce qu'on va regarder après ça chaque verset à mesure qu'on avance dans le message. Mais au verset 23, ça c'est le premier contraste qu'on va considérer dans le message, ça dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. » Donc, le passage, on va le regarder plus en détail, mais juste en introduction, je vais juste vous rappeler que c'est un passage qui est unique dans ce qu'il fait. On peut faire un parallèle entre ce qu'on voit ici, si on pourrait dire les malheurs, ben Jésus qui prononce des malheurs, versus les béatitudes. Mm-hmm. Et j'ai souligné la semaine dernière que Jésus a ouvert son ministère public avec, dans le sermon sur la montagne, le début de ce sermon-là, c'est les béatitudes. Donc, en français, ça dit « heureux, heureux ». En anglais, ça dit « béni, béni ». Donc, il prononce une bénédiction pour ceux qui se plie aux lois de son royaume. Et c'est comme ça qu'il a ouvert son ministère public avec la bénédiction, avec le bonheur à ceux qui sont caractérisés par le... C'était vraiment un caractère spirituel, régénéré, qui est décrit dans les béatitudes. Tu sais, ça décrit ce que la grâce de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. C'est ça, les béatitudes. C'est pas être des bonnes personnes. C'est quand Dieu, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, c'est ça que ça va produire. C'est les caractéristiques d'une vie transformée par la grâce de Dieu qui porte l'empreinte du surnaturel. Et donc, les descriptions qui sont données dans les béatitudes, c'est pas celles de l'homme naturel, d'un cœur non régénéré, mais vraiment, c'est le produit de l'intervention divine dans la vie de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle, justement, du royaume, de la personne de Jésus-Christ et son œuvre. Mais si quelqu'un refuse, rejette, résiste à ce message, à cette invitation de la grâce de Dieu, ce qui lui reste, c'est le malheur. Et c'est pour ça que Jésus termine son ministère public avec ses prononcements de malheur. Et c'est ça que Matthieu souligne dans le passage où est-ce qu'on est rendu. Où est-ce que Jésus dénonce avec autorité ceux qui avaient une fausse confiance, qui étaient aveugles, qui ne se rendaient pas compte que leur confiance était mal placée. Et c'est un peu comme si Jésus, dans son ministère de grâce et de vérité, s'est ouvert comme ça, a ouvert comme ça sur la promesse du bonheur. Tout au long de son incarnation, il a continué à offrir cette vie qui est la seule vraie, satisfaisante. Mais à la fin, il restait plus rien que du malheur pour ceux qui l'avaient rejeté, refusé, ce roi, ce rédempteur, ce roi d'Israël qui venait pour offrir son royaume. Et il y a plus que ça, Jésus dénonce ici, avec autorité ici, ceux qui ont rejeté la vérité incarnée. Jésus, c'est Dieu fait homme. Et qui avait rejeté cette vérité incarnée au profit d'une religion vide et vaine. Hein, pour ça qu'il dit malheur, puis là, c'était tout des. Ce qu'il dénonce, c'est tout de la vanité. C'était des gens qui avaient des rituels, qui avaient des choses qui étaient toutes sur l'apparence, sur l'extérieur, mais qui manquaient totalement de substance. Et Matthieu leur dit en quelque sorte, puisque vous avez refusé mon invitation à l'humilité, à ces caractéristiques de la grâce, d'un caractère régénéré qui donne le bonheur, il ne vous reste que le malheur de l'esclavage, de la servitude, de l'aveuglement spirituel. Et donc, on est rendu, vous savez, on a établi, il y a des contrastes entre les béatitudes et ici les malheurs. Donc, on est rendu au quatrième. La semaine dernière, on avait terminé avec le verset 22. Là, on vient de lire les versets 23 et 24. C'est le quatrième contraste. C'est un contraste d'appétit. Parce que dans la quatrième béatitude, ça dit dans Matthieu 5, 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Mais ici, qu'est-ce qu'on vient de lire? On voit des gens qui faisaient toutes sortes de choses pour l'extérieur. Ils payaient la dîme, de l'amende, de la nette, du cumin, mais ils oubliaient ce qui était important. Il n'y avait pas cette soif de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. Il y a un contraste d'appétit. Eux autres se satisfaisaient avec ce qui ne satisfait pas. Il n'y avait pas faim de ces choses. Ils se rassasiaient de ce qui ne rassasie pas. En fait, évidemment, ils ne l'étaient pas rassasiés, mais il y a un contraste d'appétit. Un appétit pour la justice, les choses de Dieu, versus appétit et soif, versus pour l'apparence dénudée de réels désirs pour Dieu. Ou pour prendre une référence parallèle ici, il y avait l'apparence de la piété, mais il reniait ce qui en faisait la force. Et Paul dit dans Timothée, quand il parle à Timothée, il dit « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Éloigne-toi de ces hommes-là, pourquoi? Parce que c'est un fait que personne n'est à l'abri de l'influence spirituelle d'autrui. Si quelqu'un n'a pas un appétit pour Dieu, il ne va pas nous encourager à voir... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a une église, c'est pour ça qu'on a besoin de s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On vient ici pour... cet appétit, cette soif de Dieu, on s'encourage là-dedans, puis on se réjouit dans ce qu'on voit ça dans les autres. Puis quand il y a quelqu'un qui se refroidit, on prie pour cette personne-là, puis ça nous brise le cœur, puis on intercède parce qu'on désire avoir cette faim, cette soif de Dieu. Et là-dessus, sur l'influence mutuelle qu'on a et qui n'est pas à négliger, ça nous dit dans Proverbe 27, « Le fer aiguise le fer. Ainsi, un homme excite la colère d'un homme, donc le côté négatif, mais aussi, comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Ça peut aussi être positif. On a une influence les uns sur les autres. Et aussi, on peut retenir Galates chapitre 3, verset 1, qui dit « Galates dépourvu de sens. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint comme crucifié? » Il y a une puissance spirituelle, il y a une fascination dans le mauvais appétit de la justice propre, d'être satisfait de ce qui est superficiel. Il y a une puissance spirituelle là-dedans. Et les pharisiens étaient pris là-dedans, les Galates ont été pris dans le jeu. Je crois, moi, dans ma vie chrétienne, j'ai été pris dans le jeu-là pendant longtemps, étant sincère, mais trompé. Sincère, mais sincèrement dans l'erreur. Mais il y a une puissance rattachée à ça. C'est une force qui s'exerce sur nos cœurs. Celle de vouloir plaire aux hommes, de bien paraître, de la crainte des hommes et non pas la crainte de Dieu. Mais il y a surtout, et d'abord et avant tout, une merveilleuse attraction spirituelle, mutuelle, dans ceux qui cherchent l'Éternel, dans ceux qui le désirent, qui ont une faim, une soif de justice. Ça aussi, c'est contagieux. Ça aussi, on s'encourage là-dedans. Donc, il y a un contraste d'appétit. Un engendre l'autre. Et vraiment, ça faut que ça parte du bon sens, parce que ça part soit d'un bord ou de l'autre. Et là-dessus, j'ai retenu Malachie, chapitre 3, verset 16. « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Hein? Il était ensemble, il y a eu une petite réunion d'église. « L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre fut de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, et ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et aussi, écoutez Proverbe 21-21, « Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. » Autrement dit, Dieu rémunère ceux qui cherchent, Dieu récompense. On obtient ce qu'on cherche. J'ai faim, j'ai soif de justice, je vais trouver ces choses en Christ, dans les promesses de Dieu. Donc, la récompense d'un appétit est en elle-même. Si j'ai faim pour les choses de ce monde, je vais trouver la récompense. Elle n'est pas bonne, mais je vais trouver la récompense. Si j'ai faim pour Dieu et les choses de Dieu, je vais trouver aussi là-dedans. Donc, la semence de l'appétit se trouve dans l'appétit lui-même. Et la semence de la vie est dans cet appétit pour le Seigneur. Plus j'ai une soif de Dieu et sa justice, plus Dieu va faire grandir en moi le désir de sa vie, puis en vouloir plus. Et ce qui est vraiment le vrai bonheur. Maintenant, regardez le verset 24, vous connaissez. Ici, quand ça dit au verset 24, « Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. » Qu'est-ce que ça peut même vouloir dire? En fait, c'est simple. Les deux, c'est des animaux un peu, mais l'un qui est très petit, puis l'autre qui est gros. Puis l'idée, c'est Ah, c'est pour renforcer le verset 23. Vous êtes tellement sur les petites choses minutieuses, OK, ah, le moucheron, c'est impur. Puis là, il y avait, littéralement, là, quand il buvait quelque chose, il y avait une espèce de petit filet qui empêchait les moucherons d'aller dedans, puis pour pas qu'ils boivent un moucheron qui est impur. OK? Mais Jésus dit, vous avalez un chameau. Puis c'est ça l'idée, c'est que, évidemment, c'est une figure de style, là, je veux dire. Mais les deux, c'est des animaux impurs, mais ah, la petite affaire, il voulait pas la faire, mais tu sais, le gros problème, tu sais, de justement, ce que Jésus dit, la justice, la miséricorde, la fidélité, il passe à côté. Mm-hmm. Comprenez-vous? Fait que c'est une image pour dire que il y avait donc les petites affaires secondaires à cœur, mais il mangeait un chameau. Donc, c'est l'aveuglement spirituel, il se rendait pas compte. Il disait, ah, on est donc spirituel, on mange pas des moucherons. Puis Jésus, dans le fond, il dénonce ça en disant, ben ouais, mais vous mangez un chameau. Et donc, c'était quoi ici le problème? Jésus dénonce, écoutez bien, l'aveuglement spirituel qui maximise ce qui n'a pas d'importance et qui minimise ce qu'il y en a vraiment. Mm-hmm. Et n'est-ce pas vrai de la justice propre? Tu sais, quand le Seigneur nous met face à nous-mêmes puis face à ce qui est vraiment important, les affaires qui disent, ouais, finalement, on dit ça tantôt, on choisit nos combats, tu sais. C'est pas tout qui est aussi d'importance capitale. Ouais. Et le problème ici, c'est un peu comme, ah ben tiens, je vais vous lire Matthieu 7, verset 1, ça dit, ne jugez point afin que vous soyez point jugé, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans le tien? C'est quoi cette fameuse poutre? La poutre, c'est l'aveuglement spirituel. C'est pas qu'il y en a un qui a un problème puis l'autre en a pas.
Ouais.
Ou même que l'autre a le problème plus gros que l'autre. Le gros problème, c'est de pas voir son problème. C'est d'être aveugle spirituellement. C'est ça la poutre. C'est d'être inconscient de notre péché. Et parce que c'est ça qu'il dit, hypocrite. Donc, un hypocrite, il voit pas les choses telles quelles. Il vit dans le mensonge, dans l'aveuglement. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, l'aveuglement spirituel croit ou essaie de se convaincre que, ben, lui, il est pas si pire que l'autre. Hein? Mais cette pensée n'est pas basée sur le triomphe de la grâce, parce que quand on est face à nous-mêmes, on voit comment qu'on est un grand pécheur. Puis Paul, il dit, dont je suis le premier. Il se voyait comme le plus grand des pécheurs. Mais aussi, il était très conscient que là où le péché avait abondé dans sa vie, Paul, il était convaincu, parce qu'il l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, que la grâce surabonde. Lorsqu'il y a une montagne de péché, le flot, la rivière de la grâce de Dieu, ça passe par-dessus. Et ça, c'est merveilleux. Et donc, ça montre l'échec de la loi dans nos rapports mutuels. Si ça ne nous conduit pas à Jésus-Christ, on est les plus malheureux. Ces gens-là étaient malheureux parce qu'il y avait tout l'extérieur, mais il manquait la réalité intérieure. Ça nous amène au cinquième contraste, deuxième pour après-midi, mais dans l'ordre du texte, c'est le cinquième. Versets 25 et 26, un contraste d'intériorité. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, qui au-dedans, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. » Et c'est quoi la cinquième béatitude? « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Je crois ici que c'est un contraste d'intériorité ou entre ce qui est vain et ce qui est vrai. Puis j'explique. Ça donne suite à ce qu'on vient de souligner dans les versets précédents avec maximiser le pas important puis minimiser l'important. C'est-à-dire que l'aveuglement spirituel ne peut que mener à l'hypocrisie et à la tromperie. De se penser meilleur que les autres et d'ainsi fermer nos entrailles, ils ne méritent pas. OK? Il y a un lien, là. Voyez le lien. Si je néglige la réalité intérieure de mon état devant Dieu, mon état spirituel, puis que je fais juste sur l'extérieur, est-ce que je vais être miséricordieux envers les autres? Ah non, parce que lui, là, tu sais, comment priait ce pharisien? Je te remercie que je ne suis pas comme lui. Avais-tu de la miséricorde? Non, parce qu'il était tellement épris de lui-même, il était tellement imbu de lui-même, qu'il y avait zéro miséricorde pour lui, il ne vivait que pour lui. Il était tellement plein de lui-même qu'il n'avait plus de place pour la miséricorde de Dieu dans son cœur. On a donc un contraste entre un cœur plein de miséricorde qui a expérimenté la miséricorde du salut, de la sanctification, de la vie de Jésus-Christ, et qui donne la miséricorde parce qu'il est rempli, parce qu'il est, qu'il a expérimenté, il en déborde, il en donne, il en a reçu au point d'en déborder, versus un cœur qui, malgré le fait qu'il est qualifié ici, ça nous dit qu'il est plein de rapine et, d'intempérance. Oui, c'est ça, c'est pas très beau. Ils pensent qu'ils sont bons pareil. Imaginez-vous, eux autres, ils se flattaient en disant qu'ils étaient beaux et tout ça. Mais Jésus dit, non, vous êtes plein, rempli de rapine et d'intempérance. Et à cause de ça, mais il était dur envers les impurs. Mm-hmm. Voyez-vous le contraste entre les deux? C'est un contraste d'intériorité, puis ça se manifeste dans comment on traite les uns les autres. Mon frère disait, c'est vrai, quand on voit notre péché, on est pas mal plus slow à lancer la pierre à l'autre. Parce qu'on dit, ouais. On n'a pas grand-pierre à lancer aux autres quand on voit, nous, notre propre péché. Les pharisiens étaient aveugles parce qu'ils ne comprenaient rien à la vraie pureté. Eux ne voyaient que la pureté extérieure, l'extérieur du plat. Mais ils ne voyaient pas l'importance de la pureté intérieure. Que même une Marie Magdala, qui était une prostituée, tout ça, mais qui avait rencontré le Seigneur puis qui avait reçu son pardon, était plus pure qu'eux. Pour eux autres, c'était impensable. Hey, non, c'est une femme de mauvaise vie, puis elle mérite certainement pas la miséricorde du Seigneur. Puis... voyez-vous le contraste? Lorsque nous sommes saisis par cette réalité, alors on est disposé à être beaucoup plus favorable face au péché des autres. Parce qu'on sait que c'est aussi notre lot, c'est notre part. Par exemple, savez-vous que les personnes les plus intolérantes, les plus dures envers autrui et sans miséricorde sont celles qui sont aveuglées par rapport à leur propre péché. Qui ne regardent qu'à l'extérieur, qu'à l'apparence. Et c'est ce que, malheureusement, c'est ce qui a donné un mauvais nom à beaucoup de milieux chrétiens et ce qui a brûlé beaucoup de familles chrétiennes. Alors que si nous avions vraiment goûté que le Seigneur est bon, comment que sa miséricorde est douce, comment son pardon est merveilleux, on aurait été les premiers à être disposés, inclinés favorablement, miséricordieusement envers les autres, envers les défauts des autres. On aurait été prêts à porter leur fardeau, on aurait été prêts à même souffrir pour eux autres. C'est tout qu'un contraste. Pourquoi? Parce qu'on aurait seulement fait qu'étendre la grâce que nous, on a reçue. Et lorsqu'on se concentre sur l'intérieur, c'est ce qu'on peut faire. Mais écoutez bien. On ne fait qu'étendre la grâce que nous avons reçue, et lorsqu'on se concentre sur l'extérieur, c'est parce qu'on a peu ou pas de travail de la grâce faite à l'intérieur. Je répète ça, là, méditez là-dessus. Là. Quelqu'un qui n'a pas de grâce à étendre aux autres autour de lui, puis qui se concentre sur l'extérieur, c'est parce qu'il n'y a pas grand travail de la grâce qui a été faite dans l'intérieur. Donc, si on est dur envers les autres, on aurait dit, « Oh, Dieu, tu as besoin de faire un travail de grâce dans mon cœur. Je suis dur envers les autres parce que dans mon cœur est dur. » Méditons sur celle-là. Ensuite, on arrive au verset 27-28, pardon, avec le sixième contraste, un contraste de pureté. Verset 27-28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au-dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Il n'y allait pas, comme dirait l'autre, avec le dos de la main morte. Puis ça, c'est avec en contraste, ok, ici on vient de voir c'est encore là l'extériorité sur la pureté seulement extérieure, mais la sixième des béatitudes, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc c'est un contraste de pureté et voici comment. C'est significatif, c'est intéressant de noter que ceux qui se disaient, se croyaient les champions de la pureté, tu sais, vous allez en Israël, puis c'est qui les plus purs, c'est qui les tops, c'est les pharisiens, puis les docteurs de la loi, n'est-ce pas? Hey, là, si tu veux être quelqu'un de spirituel, tu veux être comme eux autres, OK? Ils sont qualifiés ici très justement, parce que c'est le Seigneur qui donne le diagnostic, très justement et précisément comme étant plein encore là, plein, et c'est pas plus flatteur que tantôt, mais d'hypocrisie et d'iniquité. Hypocrisie, c'est cet aveuglement spirituel, c'est pas... C'est se faire croire quelque chose qui n'est pas vrai, c'est OK. Puis iniquité, c'est quoi l'iniquité? Il y a plusieurs mots pour le péché, mais iniquité, c'est les péchés du cœur, les péchés qui ne paraissent pas à l'extérieur. Puis Jésus, il dit, vous n'êtes plein. Ça n'a pas de l'air, vous avez de l'air beau, mais vous êtes plein de péchés qui sont dans le cœur. Jésus a choisi les mots, c'est le Saint-Esprit hein, qui a dirigé tout ça. Donc, sous la surface, ce qui n'était pas évident à l'œil, c'est ça qui était vraiment problématique, très impur. Et c'est donc dire que l'hypocrisie, telle que dénoncée ici, consiste à ne pas voir notre péché tel qu'il est. C'est ça le problème. Ah, mais c'est moins pire qu'un autre. Alors, ça, c'est vraiment des péchés graves. Le mien, c'est moins pire. On rit, mais dans le fond, on a cette tendance-là. Écoutez Romains 7, 13 à ce sujet-là. Ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Ça, c'est la loi de Dieu qui est bonne, OK? Et que le commandement, et que par le commandement, il, le péché, devienne condamnable au plus haut point. La loi nous montre comment le péché, c'est grave. Comment le péché, ça me montre que j'ai tellement besoin d'un sauveur pour le salut de mon âme puis pour ma vie quotidienne. C'est pour ça que la loi est bonne, elle nous conduit tout le temps à Christ, elle nous dit tout le temps qu'on a besoin de lui, qu'on n'est jamais suffisant. C'est ça le rôle de la loi. Elle nous montre notre péché, comment on se tient, nous, dans le besoin. Et la réponse à ce besoin, c'est Christ. Et n'est-ce pas ironique, avec ce rôle de la loi que je viens d'expliquer, que les gardiens de la loi, les scribes et les pharisiens, avaient complètement manqué le rôle de la loi. Parce qu'ils n'ont pas abouti à celui qui est la fin de la loi. On apprend ça dans Romains. Christ est la fin de la loi pour ceux qui croient. Mais eux avaient voulu établir leur propre justice, puis en établissant comme ça leur propre justice, ils ont passé à côté de celle de Christ. Parce qu'on sait que personne n'est pur devant Dieu. Hein? Notre justice, elle est comment? Ésaïe, elle est comment notre justice?
Comme une guenille.
Comme une guenille, un vêtement souillé.
Personne
québécoise. Ouais. Il n'y a que ceux qui sont purifiés qui peuvent se tenir devant Dieu. Personne n'est pur, mais on peut être purifié par le sang de Christ. La différence, c'est entre se voir, se reconnaître impur, puis là, aller avec notre besoin à celui qui purifie. That's it. Écoutez aussi Nombre, chapitre 19, verset 16. « Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. » Donc, quelqu'un qui touchait, puis ici, Jésus les appelle sépulcres blanchis. Hey, il était les champions de la pureté, puis ça, mais il dit, vous êtes comme des sépulcres blanchis. Ah, tu l'as mis tout beau, tout blanc, mais tu touches, t'es impur pareil. OK, pendant une semaine, les gens étaient rituellement impurs, s'ils avaient touché à un mort, OK, toute cette catégorie-là, ou un sépulcre. Et c'est une leçon d'objet que Dieu leur donne. Dans la loi, ici, Jésus reprend cette leçon pour leur rappeler que la mort... Elle était en eux-mêmes, ils étaient eux-mêmes des sépulcres blanchis, ils étaient eux-mêmes, de par leur nature, impurs, et qu'ils avaient besoin d'être purifiés. Ils avaient beau tout, le mettre tout beau, là, un sépulcre, tu touchais, tu étais impur pareil. T'as beau le peinturer en blanc, t'as beau passer le balai, la balayeuse à tous les jours, tu restes impur pareil. C'est ça le point, voyez-vous? Voyez-vous comment Jésus prenait des choses qui étaient dans la loi et qui pointaient encore là à lui qui est la fin de la loi? Ça nous amène au 7e contraste après-midi, versets 29 à 33, un contraste d'appartenance. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, verset 29, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? Oh, mon ami, je vous dis, c'est la dénonciation autoritaire de Christ. Et donc, ici, on a un contraste d'appartenance parce que la septième béatitude, c'est heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Est-ce que Jésus vient de décrire des fils de Dieu dans ce qu'on vient de lire dans Matthieu 23? Pas vraiment, hein? En fait, comme leur prédécesseur, Jésus ici rappelle que les pharisiens n'avaient pas procuré la paix de Dieu, la paix de la rédemption, la paix promise par la postérité d'Abraham qui est accomplie en Jésus-Christ. La paix que la parole donne parce qu'elle nous amène au prince de paix dont Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe 9:5 et que Jésus était là lui-même incarné devant eux, lui le prince de paix, Dieu fait homme et donc qui était venu pour réconcilier l'inimitié entre Dieu et l'homme. On voit vraiment qu'il y a tout qu'un contraste d'appartenance. Ils n'étaient pas des fils de Dieu parce qu'ils n'amenaient pas la paix. C'est la guerre qui amenait, c'est l'épée. Verset 30, encore une fois, on voit Jésus a dit, si vous aviez vécu du temps de vos pères, eux autres, pardon, qui se faisaient accroître, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions point joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Ils étaient convaincus là, qu'ils étaient donc parfait, puis super, puis tout allait bien pour eux autres. Donc, encore une fois, on voit à quel point ces personnes étaient aveuglées, se trompaient elles-mêmes, parce que ce sont ces personnes-mêmes qui ont crucifié le prince de la vie. Dieu fait homme devant eux, plein de grâce et de vérité. C'est le summum de la tromperie de soi. Il était sur le point de comploter son meurtre. Lui qui était leur paix. Christ est notre paix. Wow! Et donc, ils professaient être de Dieu, mais ils ne lui appartenaient pas et on le voyait par leurs œuvres. D'où ce contraste d'appartenance, de par la paix versus l'inimitié qu'ils apportent. Et ça, c'est une bonne façon de reconnaître où est mon appartenance. Et là, je ne parle pas en termes absolus, mais de façon générale. Où est mon appartenance? Le fruit de mes relations, de mes interactions, est-ce que c'est la paix ou l'animosité? Est-ce que quand j'ai passé à quelque part, est-ce que quand mon influence s'exerce, il en résulte la paix ou il en résulte l'animosité? Les enfants de Dieu, c'est des enfants de paix parce qu'ils sont des enfants du prince de paix. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas en termes absolus. Là. Ah, mais si je connais, je ne suis pas un enfant de Dieu. Dire, on serait tous dans le trouble, là. Mais comprenez-vous, la saveur de nos vies, la direction de nos vies, l'effet de nos vies, l'influence spirituelle de nos vies. Si on ne fait que semer que des querelles et de la guerre, on doit légitimement se demander à qui on appartient. C'est ça mon point. OK? Est-ce que vraiment j'appartiens au prince de paix? Parce que son règne est un règne de paix qui se manifeste comme ça. Puis, verset 33... « Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la Géhenne? » Bien, ça, la réponse, c'est Jésus-Christ. Il fallait qu'il vienne à Christ. Il fallait qu'il arrête de rejeter le prince de paix, puis de tuer tous ses prophètes et ceux qui l'annonçaient. Ça m'amène au huitième et dernier contraste. Un contraste de culpabilité. Et c'est la conclusion de cette section-là, verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans les synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Vous dites, on a des paroles vraiment puissantes de la part de notre Seigneur. Et maintenant, c'est en contraste avec la plus longue des béatitudes, Matthieu 5, 10 à 12. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Un contraste de culpabilité. Ici, Jésus parle à des gens qui se tenaient grandement coupables. Puis il les rend coupables. Vous avez vu la condamnation de tout le sang d'Abel, le premier, jusqu'au dernier, Zacharie, fils de Baraki. C'est-à-dire, c'est toute qu'une culpabilité. Là. Il y en avait lourd parce qu'ils marchaient dans cette trace-là. Ils scellaient le sceau de leur condamnation. Ils scellaient le sceau. C'est ça. Donc, ce groupe de Matthieu 23 qui est dénoncé ici était coupable de rejeter, de refuser la révélation de la grâce de Dieu par ceux qui les sommaient de sortir de ce refus, de cet endurcissement. Dieu avait envoyé plusieurs. Puis là, c'est toute qu'une liste, là. Quand tu regardes entre Abel et Zacharie, là, il y en a toute qu'une gang, là, qui avait été là auparavant, dont leur prédécesseur était coupable et il était tout autant coupable. La différence entre nous et une religion externaliste, conformiste, vide. Savez-vous que c'est pas les bons et les méchants? Nous, on est les bons, puis eux autres, c'est les méchants. Mais c'est la repentance versus la non-repentance. Parce qu'on est tous méchants. Mais quand on reconnaît qu'on est méchant, puis qu'on va à celui qui pardonne en se repentant, c'est ça qui fait la différence. C'est un nouveau départ. Amen. C'est de voir simplement et humblement comme le... Non, c'est ça. Il faut voir ça comme humblement et simplement comme le fait que Dieu nous a donné la repentance et que nous sommes que nous on a la repentance et qu'on appelle les autres à revenir à Dieu dans cette même repentance. On n'est pas meilleur que personne, mais nous qui avons reçu cette grâce, on appelle les gens à se tourner vers Dieu pour recevoir cette même grâce. Amen. J'ai eu de la misère avec celle-là, mais c'est pas grave. C'est dimanche après-midi pour tout le monde. Et ici, il y a un parallèle clair, je crois. OK, oui, amoindri, j'admets. À faire avec notre situation actuelle dans notre société et dans nos églises. Et j'explique. Je pense qu'on doit prendre les paroles qui sont là pour nous. Tu sais, quand ça dit, là, heureux serez-vous si vous êtes persécutés pour la justice, puis on fait le parallèle aussi, tu sais, les gens parlent de Romains 13, il faut se soumettre au gouvernement, puis c'est plus expliqué dans un contexte de persécution dans 1 Pierre 2, mais c'est la même idée. Il dit dans 1 Pierre 2 qu'on doit se soumettre au gouvernement, mais il dit, si vous avez à souffrir, souffrez pour avoir fait le bien. Autrement dit, les chrétiens à qui Pierre écrivait, étaient persécutés parce qu'ils étaient chrétiens, parce qu'ils se soumettaient à Dieu plutôt qu'aux hommes dans certains contextes. Mais il dit, si vous avez à faire ça, faites-le pas comme un malfaiteur pour avoir enfreint la loi. Mais si vous le faites pour avoir fait le bien, c'est un honneur devant Dieu. C'est une grâce devant lui. OK? Et je pense qu'on peut prendre ça pour nous autres. Par exemple, si on est ici, puis un dimanche matin, on a de la visite, qu'on prie, qu'on n'aille pas, mais si Dieu le permet, puis qu'on est dans le trouble, on n'aura pas à avoir honte pour s'en aller comme des gens qui ont fait le mal, puis que... Mais on va pouvoir aller retourner, bon, je sais pas si on va être battu, là, mais comme les apôtres qui retournaient après avoir été frappés de verge, ils rendaient gloire à Dieu qui avait été jugé digne de souffrir pour son nom. Parce qu'on n'est pas ici pour notre nom, on n'est pas ici pour notre royaume, mais pour le Seigneur. Donc, tu sais, il y a quelque chose vraiment pour nous là-dedans, de prendre la bénédiction de ce qui est dit là. Tu sais, dans le contraste, oui, OK, il y a ceux qui ont tué les prophètes puis tout ça, mais heureux ceux qui, à cause, sont persécutés à cause de la justice. Parce que le royaume des cieux est à eux. Puis on est heureux quand on va être outragé. Puis c'est ça, là. Dans le contexte, comme on dit, tu dis des choses faussement puis tout, c'est très possible, là. Ça arrive déjà beaucoup à des frères et des sœurs dans le monde qu'on connaît pas nécessairement tous, mais là, on vient d'entendre de ceux, Luigi puis Sabrina, puis avec leurs deux gars. Bon, qui ont réussi à arriver au Canada, mais c'est ça, ils ont souffert pour le nom du Seigneur étant expulsés du pays où ils étaient. Maintenant, dans la conclusion, je ne suis pas rendu là, encore sur les versets 34 à 36, c'est à prendre aussi avec donc l'envers de la médaille, c'est à prendre aussi avec confiance et autorité sur le fait de demeurer ferme, sauf face aux avertissements qui est donné ici. On a vu ce matin, hein? Je veux dire, Shadrach, Meshach, Abednego, Moïse, les apôtres ont payé le prix pour ne pas fléchir le genou devant César, devant Pharaon, devant les autorités. Et pourquoi? Parce que leur Seigneur en était digne. Et c'est pareil pour nous autres aussi. On a encore ce même appel qui est à prendre très au sérieux. Et maintenant, la conclusion du chapitre 23. Et c'est la conclusion du message. Jérusalem, Jérusalem, verset 37. Qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous y disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jésus leur dit que leur maison va leur être laissée déserte. On met ça en contraste avec Jean chapitre 14, verset 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce ne l'était pas, je vous l'aurais dit, je vous ai préparé une place. » Jésus promet à ses enfants qu'il a préparé une place, puis ici, il promet à ceux qui le rejettent. La maison ici, c'est la maison de Dieu, le temple, parce qu'au chapitre 24, il va en parler plus en détail. Là. Je reviens là-dessus dans un instant, mais il y a aussi un contraste ici. C'est-à-dire que Jésus répudie le temple en le qualifiant de « votre maison ». Il dit c'était même plus la maison de Dieu, là, parce qu'il l'avait tellement perverti, il l'avait tellement... défait l'usage sacré que c'était plus la maison de Dieu. Et dès lors, la vraie maison de Dieu allait être pas le temple à Jérusalem, mais l'église du Dieu vivant qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est prophétique que Jésus nous amène ici. Et dans chapitre 24, verset 1, le premier verset, on prend un petit peu d'avance. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Puis il pose la question, comment ça va? On va voir ça la semaine prochaine. C'est le fun, ça va être très controversé. Peut-être qu'on va se battre. On va voir. Ah, mais c'est pas la semaine prochaine, on n'aura pas du Seigneur avant. Fait qu'on va s'aimer, puis après ça, on va se battre. Fait qu'on va se battre dans l'amour. Je sais pas trop ce que ça va donner, là, mais non, mais garde. OK, mais juste ici, juste pour remarquer, là, les disciples font remarquer la splendeur du temple à Jésus. Puis c'est comme si tu leur disais, « Maître! » Tu voulais certainement pas parler de cette maison-là quand tu sais qu'elle allait laisser déserte. Ben, c'est la maison de... Comprenez-vous? Il y a un lien entre les deux. Le Saint-Esprit, pour moi, c'est la fin du chapitre 23, puis boum, chapitre 24, ça tombe avec ça. Mais oui, en 70 après Jésus-Christ, elle a été laissée déserte, elle a été détruite. Et il y a plus que le temple qui a été affecté. Toute la cohésion sociale, religieuse d'Israël a été complètement défaite avec la diaspora parce qu'ils ont rejeté Dieu et ses serviteurs. La parole de Dieu s'est tenue comme il avait dit. Il y a toujours des conséquences et elles sont graves, plus qu'on pense lorsqu'on rejette Dieu. Et mon appel, c'est le suivant. Invoquons la miséricorde de Dieu sur notre nation, nos églises, nos familles, nos cœurs. Parce qu'on est dans des heures fâcheuses. On est dans des temps où est-ce que le jugement de Dieu, on voit, là, je veux dire, regardez, tout ce qui est de Dieu s'est attaqué. Les gouvernements, les familles, les valeurs. Et donc, qu'on prie Dieu. Oh, qu'on ne soit pas aveugle et qu'on se flatte, qu'on est donc bon, qu'on est donc beau. Mais qu'on invite Dieu d'avoir miséricorde de nous autres. Et nous avons le ministère de la réconciliation. On peut prêcher ça aux autres dans notre nation qui sont encore ennemis de Dieu, mais qui peuvent être réconciliés par la croix de Christ. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Seigneur, ta parole est la vérité. Et on te remercie qu'elle est claire par ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu nous enseignes, tu nous conduis dans toute la vérité toi-même. Tu es un Dieu personnel, tu es un Dieu qui nous révèle Christ dans toutes les Écritures, qui nous enseigne la voie, le chemin étroit. Merci pour ça, Seigneur. Seigneur, on veut certainement pas avoir dans nos vies des endroits où est-ce qu'on se pense donc correct et tout ça, mais où est-ce qu'on est aveuglé. Tu as prononcé des sévères condamnations contre l'aveuglement spirituel, contre la justice propre, contre la confiance en toi, en soi. Seigneur, on veut certainement pas tomber dans ces pièges-là, et tu sais qu'on y est prompt. Et tu vois comment c'est subtil. On peut facilement tomber là-dedans. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur nos angles morts, mais aussi et surtout, ouvre nos yeux sur toi. Que la vue de ta majesté, de ta grandeur dissipe toute ombre, toute ténèbre qu'il peut avoir dans nos vies parce que tu es la lumière qui éclaire les ténèbres. Alors, Seigneur, merci pour ça. Éclaire les ténèbres de nos propres cœurs. Et que vraiment, Seigneur, ta lumière, ta parole qui est une lumière à nos pieds, une lampe à nos sentiers, puisse nous diriger pas à pas. On t'a pris toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. 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 Si vous voulez prier, vous avez l'occasion de le faire.